Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nissan, Renault et Mitsubishi ébranlés par l'arrestation de Carlos Ghosn à Tokyo. Une arrestation pour fraude fiscale et malversation. Nous irons au Japon dans un instant. Barrage filtrant, opération escargot, blocage de dépôt de carburant. 20 000 gilets jaunes se sont de nouveau mobilisés aujourd'hui pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat. Ils comptent sur de nouveaux rassemblements d'ampleur samedi pour faire plier le gouvernement. Le renseignement russe affaibli. En quelques semaines, plus de 300 agents sont sortis malgré eux de l'anonymat. Des journalistes d'investigation les ont démasqués avec une déconcertante facilité. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé appelle à un changement de cap dans la lutte contre le paludisme, qui reste l'une des premières causes de mortalité au monde. L'OMS juge les investissements toujours insuffisants. Un grand patron tombe de son piédestal. Carlos Ghosn, président de Nissan, PDG de Renault et de l'alliance Renault-Nissan et président de Mitsubishi, est accusé de fraude financière. Il a été arrêté au Japon. Carlos Ghosn est considéré comme l'homme qui a sauvé Nissan et aujourd'hui c'est Nissan qui le cloue au pilori. Une enquête interne de plusieurs mois a établi qu'il avait sous-évalué pendant des années ses revenus déclarés aux autorités boursières. Le conseil d'administration de Nissan va se réunir jeudi et le directeur général de Nissan a déjà fait part de son intention de démettre Carlos Ghosn de son poste au plus vite. La correspondance de Karine Nishimura à Tokyo.
Il n'a pas mâché ses mots, le patron de Nissan, Hiroto Saikawa. Lors d'une conférence de presse en pleine nuit à Tokyo, il a livré une charge très dure contre Carlos Ghosn, une star qui était auparavant encensée. C'est une dénonciation au sein du groupe qui a déclenché une enquête contre M. Ghosn, accusé d'avoir minimisé ses déclarations de revenus et profité à titre personnel d'actifs de l'entreprise durant plusieurs années. M. Saikawa a refusé de dire quand la dénonciation avait eu lieu, mais a précisé que les investigations internes étaient désormais finies et que le groupe allait pleinement coopérer avec la justice. Affrontant seul des centaines de journalistes, M. Saikawa a jugé totalement inacceptable la conduite de M. Ghosn. Il a reconnu que les conséquences seraient importantes sur Nissan et Renault, mais a promis de faire son possible pour que l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors soit préservée. Cette arrestation soudaine de M. Ghosn est un choc énorme non seulement pour les milieux d'affaires japonais, mais aussi pour les citoyens nippons qui ont su gré pendant des années à M. Ghosn d'avoir sauvé un pan de l'industrie japonaise.
Un choc énorme effectivement et pas seulement au Japon. Le conseil d'administration de Renault compte se réunir au plus vite. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, affirme que la première préoccupation de la France est la stabilité de Renault et la consolidation de l'alliance entre le constructeur automobile français et son partenaire Nissan. Une alliance dont Carlos Ghosn avait été l'architecte. Écoutez l'analyse de Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile.
Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'évidemment, ça a un impact médiatique important parce que l'alliance Renault-Nissan est devenue la première alliance en termes de nombre de voitures vendues dans le monde et que c'est une alliance qui existe depuis bientôt 20 ans. Et c'est une alliance réussie, ce qui est très rare dans le monde de l'industrie automobile puisqu'on sait très bien que les rapprochements, les fusions entre constructeurs de pays différents, c'est quelque chose de très difficile à réussir et c'est Carlos Ghosn qui a été véritablement la clé de voûte de cette réussite. Il faut rappeler qu'à l'époque, quand il a été désigné par Louis Schweitzer pour redresser Nissan, quand Renault a pris 34% du capital de Nissan, Nissan était au plus mal. Et c'est véritablement lui qui a réussi à remettre le constructeur Nissan sur les rails, si je puis dire, ou sur la route. Et donc, c'est vrai qu'au Japon, personne n'a oublié finalement ce qu'il a accompli comme patron de Nissan. Et bon, depuis, Nissan évidemment s'est développé, a continué à se développer, vend beaucoup plus de voitures d'ailleurs que Renault. Et c'est pour ça qu'au Japon, son autorité, sa légitimité n'ont jamais été mises en cause.
Aujourd'hui, la chute de Carlos Ghosn plonge le groupe dans l'incertitude, mais l'économiste Bernard Julien, spécialiste de l'industrie et du marché automobile français, relativise les effets de l'arrestation du PDG. Selon lui, l'alliance Renault-Nissan n'est pas menacée.
Ce qu'on peut craindre, évidemment, c'est que la tentation existe pour certains chez Nissan qui pourraient se sentir dominés ou maltraités par cette majorité Renault qui avait été acquise il y a 20 ans maintenant. En même temps, il y a quand même, semble-t-il, une certaine irréversibilité dans les liens qui se sont créés entre Renault et Nissan. Ils partagent quand même énormément, même si ce n'est pas une entreprise. Mais je pense que chacun a conscience de part et d'autre de l'alliance. D'avoir besoin de l'autre entreprise et par conséquent moi je pense plutôt irréversible les liens qui unissent depuis 20 ans maintenant Renault et Nissan. Même quand on regarde l'affaire Volkswagen, on s'aperçoit que commercialement, ça a été grave aux États-Unis, et encore, Volkswagen est encore à 5 points, finalement, ça a assez peu varié, et tout le monde s'est étonné que ce Volkswagen Gate, qui a été si important, médiatiquement si lourd et si durable, ait eu aussi peu d'impact sur les ventes des 4 ou 5 grandes marques pour Volkswagen. Le départ de Ghosn, si se confirme, n'impacte pas les comptes ni de Renault ni de Nissan. Ça impacte le cours du titre. Et évidemment, ça va exiger des actionnaires qui trouvent assez rapidement des solutions à cette crise de gouvernance.
Bernard Julien, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Le Premier ministre tient le cap, eux aussi, en cette troisième journée de mobilisation. Les Gilets jaunes sont logiquement moins nombreux que samedi, où le ministère de l'Intérieur avait comptabilisé 290 000 manifestants. Mais quelques 350 actions ont été lancées, avec de nouveaux barrages filtrants sur plusieurs axes routiers et sur les voies conduisant à des dépôts pétroliers. Le ministère de l'Intérieur fait état de 20 000 manifestants. Et à La Réunion, où il y a eu des violences urbaines et même des pillages ce week-end, la tension reste très forte et les autorités redoutent de nouveau dérapage. On retrouve sur place Antoine Garnier-Larocque de Réunion La Première.
La Réunion est totalement paralysée par le mouvement des Gilets jaunes. Ce lundi, on ne circule plus sur les routes de l'île. L'économie est à l'arrêt depuis la mi-journée avec les blocages du port maritime et de l'unique site de stockage de carburant du département. La grande majorité des établissements publics et des commerces de l'île ont fermé leurs portes dans la matinée. Les Gilets jaunes réclament un gel du prix des carburants, mais ils sont nombreux à expliquer leur mobilisation par le coût de la vie et le chômage de masse.
On n'est pas d'accord avec la taxe, tout ce qui augmente, l'essence... Pour les emplois aussi, le chômage, la retraite, il y a plein de choses. On nous taxe trop, là, on nous pèse comme un citron, on en a marre.
Ce midi à Saint-Pierre, un magasin de sport a été pillé en plein jour par des casseurs. La nuit dernière, c'est une concession automobile, un fast-food et un supermarché que des jeunes, parfois mineurs, ont pris pour cible. En début d'après-midi, des manifestants ont réussi à s'introduire de force dans l'hôtel de région avant d'être évacués manu militari par les forces de l'ordre. Les autorités locales semblent dépassées par l'ampleur du mouvement et les exactions commises en marge des manifestations. Ce matin, le préfet de La Réunion, jusqu'ici silencieux, a annoncé par la voix de sa directrice de cabinet avoir demandé l'envoi de renforts de police et de gendarmerie dans l'île.
Il y a eu encore plusieurs blessés aujourd'hui sur le territoire français. Malgré cela, de nouveaux appels à manifester à pied, à cheval ou en voiture sont relayés sur les réseaux sociaux. Objectif, bloquer Paris samedi. Il est également question de bloquer tous les centres commerciaux. Bonsoir Olivia Cohen.
Bonsoir.
Alors le mouvement des Gilets jaunes n'ayant pas de leaders officiels, il reste difficile à cerner.
Dans les nombreux témoignages dans les médias ces derniers jours, beaucoup de Gilets jaunes insistent. En effet, c'est un mouvement citoyen, on ne veut aucune récupération. Alors certes, des hommes et femmes politiques se sont affichés ici et là, Florian Philippot, président des Patriotes ou encore des membres de la France Insoumise, mais aucun n'a pris les commandes, ce sont plutôt des figures issues de la société civile qui ont émergé sur les réseaux sociaux, à commencer par Jacqueline Moureau, cette mère de famille de 51 ans, musicienne, hypnothérapeute et agent de sécurité, une égérie présentée comme amatrice de paranormal et adepte de théories complotistes, elle n'affiche aucune appartenance politique, au contraire. Au contraire, avec le mouvement des Gilets jaunes, elle compte créer, je cite, le plus grand parti de France.
On aurait donc tort, Olivia, de résumer les Gilets jaunes à des citoyens proches des extrêmes.
En tout cas, on ne peut pas dire que c'est un mouvement piloté ou noyauté par l'extrême droite. Il a particulièrement pris, certes, dans des régions rurales et périurbaines, où il peut y avoir un vote RN, Rassemblement National, important. Mais en réalité, dans ces zones-là, le premier parti, c'est l'abstention. Par ailleurs, dans le cortège, il y a beaucoup de gens qui manifestent pour la première fois, parce que touchés à l'essence, au carburant, c'est touché à leur liberté de mouvement, à leur liberté tout court, et c'est un symbole de taille. Beaucoup de personnalités de gauche abondent en ce sens. Olivier Besancenot, du nouveau parti anticapitaliste, déclare « c'est un mouvement populaire, pas populiste ». Son confrère, porte-parole du NPA Philippe Poutou, adresse même un hommage aux Gilets jaunes sous forme d'autocritique. Je le cite « Les Gilets jaunes seraient-ils en train de faire ce que le mouvement syndical n'avait pas réussi ? Un mouvement surprenant qui se prolonge, qui exprime clairement détermination et colère contre le gouvernement. Une mobilisation général devient possible. Enfin, la personnalité la plus Macron compatible en faveur des Gilets jaunes, c'est l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit, proche de La République En Marche. L'écolo incite le président de la République à se montrer à l'écoute des Gilets jaunes.
Olivia Cohen a noté que les prix des carburants vendus dans les stations-service ont continué à baisser la semaine dernière d'environ 2 centimes dans le sillage du recul des cours mondiaux du pétrole. Il faut remonter à la mi-mars pour retrouver des prix de l'essence inférieurs. Coup d'envoi des débats sur la modernisation de la justice à l'Assemblée. Le texte soumis aux députés entend adapter l'institution au XXIe siècle. Il prévoit notamment de simplifier les procédures civiles, comme celle du divorce, et de rendre la procédure pénale plus efficace en donnant de nouveaux outils aux enquêteurs et en protégeant mieux les victimes. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Ce projet de loi est porté par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.
Et c'est donc elle qui a donné le coup d'envoi à ces débats. La ministre de la Justice a une fois de plus mis en avant l'augmentation du budget de la justice, plus 24% d'ici à 2022. C'est le premier article du texte qui le prévoit. Nicole Belloubet a défendu un texte, selon ses propres mots, ambitieux et modeste.
Ambitieux car il est systémique, englobant différents pans de la procédure devant les juridictions. Ambitieux aussi car son unique objectif est d'améliorer la protection du justiciable et de contribuer à renforcer encore l'image de la justice auprès de nos concitoyens. Modeste cependant, car des chantiers, je le sais, devront encore être ouverts. Dès après le vote de cette loi, si vous l'adoptez, je souhaite notamment m'atteler à une vaste réforme de l'accès aux droits pour les plus vulnérables et à la question de l'aide juridictionnelle.
Le texte présenté a été examiné par la commission des lois. Sa présidente Yaël Braun-Pivet défend un projet qui, selon elle, va rapprocher les citoyens de la justice.
Pour examiner les deux textes que vous nous proposez, Madame la Ministre, nous avons mené 9 réunions, 33 heures d'échanges en votre présence. Près de 1000 amendements ont été examinés, dont 350 adoptés. Ce débat, responsable et apaisé, fut le terme provisoire d'un long chemin fait de concertations et de réflexions. Je sais que notre travail se poursuivra dans le même climat apaisé qu'il a toujours caractérisé. Je sais qu'ensemble, nous suivrons sa mise en œuvre et assurerons son évaluation et je m'en réjouis.
Le député LR Philippe Gosselin salue à son tour l'ambiance constructive des débats, mais il fait part de ses réserves sur le projet de loi et notamment sur la création de 7000 places de prison.
Chacun sait qu'à minima, il faudrait au moins 11000 places de prison pour garder la tête hors de l'eau. Des études sérieuses menées fin 2016, début 2017 l'ont démontré. 7000 places non seulement ne permettent pas l'encellulement individuel, mais elles ne permettent pas la modernisation nécessaire des établissements déjà existants.
Les débats devraient durer toute la semaine et le vote est prévu mardi prochain.
Antoine Marette, Choose France, choisissez la France. Voilà l'invitation lancée aux étudiants étrangers par le gouvernement français. La France veut renforcer l'attractivité de ses universités et de ses écoles face à la concurrence internationale. Elle souhaite accueillir 500 000 étudiants en mobilité en 2027 contre 320 000 actuellement. Et pour cela, elle lance un plan de bataille. Mais ce qui peut sembler surprenant à Kim Kasmi, c'est qu'elle annonce une hausse des tarifs pour les étudiants étrangers. Ce n'est quand même pas très attrayant.
Oui, des frais d'inscription pour les étudiants hors zone Europe qui passeront en moyenne de 200 à 3000 euros en licence, soit un tiers de la valeur réelle des formations. Un choix qu'assume parfaitement le Premier ministre, Édouard Philippe, qui rappelle qu'il reste bas par rapport à d'autres pays d'Europe, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, voire d'Amérique du Nord, où ils peuvent atteindre les 50 000 dollars dans les universités prestigieuses. Édouard Philippe.
Un étudiant étranger issu d'une famille fortunée qui vit en France paye le même montant qu'un étudiant français peu fortuné, dont les parents résident, travaillent et payent des impôts en France depuis des années. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est absurde, et je crois même qu'il y a là quelque chose qui est injuste. Et je pense surtout que ce choix a comme conséquence la faiblesse des moyens disponibles pour accueillir et pour accompagner les étudiants internationaux.
Dans le même temps, pour ne pas pénaliser les plus modestes, la France va tripler les bourses pour les étudiants étrangers qui devraient passer à 22 000, un chiffre bas quand on sait qu'il y a actuellement 320 000 étudiants étrangers scolarisés dans nos universités et dans nos grandes écoles. Ce qui aura pour effet de baisser le nombre de candidatures, selon Jorge Moro, diplômé en communication à l'université de Dijon qui vient d'Argentine.
C'est un peu contradictoire, surtout quand on prend en compte en fait la situation économique des pays non européens, surtout les pays latino-américains. Là, je parle spécifiquement de mon pays d'origine, qui est l'Argentine, mais en plus surtout où l'euro est vraiment fort. Il y a un décalage important avec chacun de leurs monnaies. Donc, je crois que ça va être très difficile. Déjà, c'est compliqué pour les étudiants étrangers latino-américains de venir étudier en France. Donc, ça va être plus compliqué encore s'il faut, même si c'est un tiers, de payer ses frais en euros.
En attendant, pour les universités, cette manne financière est la bienvenue. Khaled Bouabdella, président de l'Université de Lyon et vice-président de la Conférence des présidents d'université, la CPU.
Il est question, par exemple, de développer les formations en anglais. Il est question de développer l'apprentissage du français. Il est question de développer la qualité de service qui sont proposés dans les guichets d'accueil, etc. Donc tout ça, c'est évidemment, on va améliorer la qualité d'une manière générale. Et ça, ça requiert des moyens, bien sûr, pour le faire.
Enfin, pour faire face à la concurrence qui devient mondiale, notamment des pays du Golfe, de Turquie ou encore d'Asie, le Premier ministre va allouer 5 millions d'euros pour développer l'ouverture d'universités françaises à l'étranger, comme celle de Tunisie et celle qui va être inaugurée bientôt au Sénégal.
Hakim Kasmi. Il ne manquerait plus que 4 lettres pour un vote de défiance contre Theresa May. Selon la BBC, 2 lettres supplémentaires de députés conservateurs frondeurs ont été remises au groupe parlementaire du parti. La première ministre britannique, dans la tourmente, a tout de même pu souffler un peu aujourd'hui. Elle a défendu le projet d'accord sur le Brexit devant les membres de la principale organisation patronale britannique, réunie pour leur conférence annuelle à Londres. Et les patrons lui apportent leur soutien, Antoine Gignot.
Absolument, pas d'éclat de voix, pas d'attaque en règle. Seule une question sur l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et le reste du monde vient bousculer la Première Ministre, mais les échanges restent calmes, le ton presque amical face aux anti-Brexit qui demandent un second référendum, face aux partisans d'une sortie dure de l'Union Européenne. Theresa May se raccroche au pragmatisme des patrons et elle joue la proximité. Nous ne parlons pas ici de théorie politique, dit-elle, mais de la réalité de la vie des gens. Avant de développer son programme, libre circulation des biens, nombre d'emplois menacés, immigration limitée, interconnexion des circuits de marchandises. La Première ministre parle en termes techniques, puis elle s'adresse directement à la salle. Vous aussi, vous devez jouer votre rôle. Autrement dit, faites pression sur vos amis députés pour que je ne sois pas mise en minorité. De toute façon, la plupart des chefs d'entreprise le disent, ils n'ont pas vraiment le choix. L'accord négocié entre Bruxelles et Londres n'est pas parfait, mais il existe et le climat d'incertitude actuelle est bien pire pour les affaires. Il faut donc, disent-ils, soutenir Theresa May, coûte que coûte et faute de mieux.
Antoine Gignot, correspondant de France Culture au Royaume-Uni, en direct de Londres. Le renseignement militaire russe fragilisé. La curiosité de journalistes d'investigation russes appartenant au site The Insider a été récompensée. Avec l'aide de leurs collègues britanniques de Bellingcat, ils ont trouvé les identités de nombreux agents du GRU et les agents russes ont été facilement débusqués, faute d'avoir pris les précautions les plus élémentaires, Claude Bruyot.
Une simple note de taxi, bêtement conservée par un ressortissant russe de passage aux Pays-Bas, et les masques sont tombés. Au printemps dernier, tout un pan d'une opération d'espionnage menée par le GRU, le renseignement militaire russe, contre l'OIAC, l'Organisation internationale contre les armes chimiques, s'est ainsi effondré et surtout a été révélé au grand public, au plus fort de la polémique sur l'emploi des armes de destruction massive en Syrie. Cette annonce, preuve à l'appui, a eu pour effet, entre autres, de renforcer la curiosité notamment des journalistes russes du site d'investigation The Insider. Il faut dire que les cas d'absence flagrante de couverture des agents du renseignement militaire russe frisent parfois la naïveté. En passant par le marché noir, The Insider a pu ainsi accéder assez facilement aux fichiers de la police routière de Russie, rien que ça. Et encore plus facilement, à partir de la plaque d'immatriculation d'un véhicule utilisé par un conducteur au profil suspect, les journalistes locaux sont remontés directement à l'adresse postale du GRU à Moscou. Le résultat est tel aujourd'hui que The Insider assure que des centaines de ses agents, en action ou dormant, ne seraient plus opérationnels. De leur côté, à chaque révélation importante, les autorités russes restent dans la dénégation et contre-attaquent en affirmant qu'il s'agit de montage ou de manipulation piloté depuis l'étranger.
Claude Bruyot à Moscou. Les cas de paludisme augmentent dans le monde. En 2017, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 219 millions de personnes touchées, soit 2 millions de cas de plus qu'en 2016. L'OMS en tire les conséquences et lance un nouveau plan contre le paludisme pour réduire d'au moins 40% le nombre de décès. Transmis par un moustique infecté, le paludisme tue 435 000 personnes par an, majoritairement en Afrique, Nadine Epstein.
Oui, 11 pays africains, du Burkina Faso à la Tanzanie, en passant par l'Ouganda, le Niger, le Cameroun concentrent entre 70 et 90% des cas de paludisme, 151 millions de personnes touchées en 2017 dans cette région. Les filles et les garçons de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables. Toutes les 2 minutes, un enfant meurt de cette maladie évitable et curable. 266 000 morts en 2017, soit 161% des victimes décédées ont moins de 5 ans. C'est inacceptable, commente l'OMS, sur le principe principe que personne ne devrait mourir d'une maladie qu'on peut prévenir, diagnostiquer et qu'on peut guérir avec des traitements. Si le nombre de cas de paludisme a augmenté en 2017, le nombre de décès a lui légèrement diminué. 435 000 en 2017 contre 451 000 en 2016 et 607 000 en 2010. Mais le nombre de morts de paludisme pourrait baisser de 40% au moins si la lutte contre la maladie était une priorité pour les pays. Or, 24 des 41 pays où frappe le plus le paludisme dépendent de l'argent extérieur. Les États-Unis restent le plus grand donateur international, 1,2 milliard de dollars, soit 39% du financement mondial de programmes de lutte et d'élimination du paludisme. Si les pays mènent d'intensifs efforts, le paludisme recule. Ainsi, 46 pays, dont l'Éthiopie, l'Inde, le Pakistan, le Rwanda, obtiennent des résultats très probants et sont en passe d'éliminer le paludisme. La Chine et le Salvador n'ont pas connu en 2017 de transmission et en 2018, l'OMS a certifié que le Paraguay était exempt de paludisme. C'est le premier pays des Amériques à obtenir ce statut en 45 ans. Trois autres pays ont demandé la certification officielle, l'Algérie, l'Argentine et l'Ouzbékistan.
Nadine Epstein, il va neiger cette nuit du nord de la vallée du Rhône à la région parisienne. Le département du Rhône est d'ailleurs placé en vigilance orange à partir de 22h. Les températures minimales seront négatives demain sur la moitié nord, comprises entre 2 et 10 degrés plus au sud. Il fera 1 à 10 l'après-midi, 11 à 17 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.